Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditrices, auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouveau numéro de l'émission Café des Libertés de la Radio Rage, voix de jeunes, qui sera consacré à l'occasion de la journée de l'enfance africaine le 16 juin à la question migratoire en Algérie. Sa date consacrée à la mémoire des massacres d'écoliers et des lycéens de la région Soweto de l'Afrique du Sud, sorti un certain 16 juin 1976 pour dénoncer les mesures discriminatoires de l'apartheid et contre la généralisation de la langue africaine considérée comme langue des colons. À cet effet, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir parmi nous Moumen Khalil, secrétaire général de la Ligue des Algériens de défense des droits de l'homme et membre du comité de coordination de la plateforme Migration Algérie. Et aussi Belaouar Nassim, étudiant à l'université de Tizi Ouzou, militant des droits humains et un des initiateurs de l'initiative École des réfugiés. Et aussi, nous avons Imen Benchaouch, chargé de plaidoyer et d'accès aux droits des migrants au Médecins du Monde Algérie. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux migrants et à l'immigration en Algérie, dont la problématique des migrants et la situation des migrants et des enfants migrants en Algérie, dans quelles conditions ces enfants évoluent, dans quelles conditions aussi les migrants qui se retrouvent en Algérie, dans quelles conditions ils évoluent. Donc, la question de l'immigration, c'est une question qui est qui devait être sur un flux migratoire qui devait être dans le plus normal, dans le plus normalement du monde, si le déplacement des populations à travers du monde pour chacun, c'est-à-dire pour chercher une vie meilleure, l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage aussi. Mais la multiplication des conflits a fait en sorte que le flux migratoire est devenu une problématique mondiale. Une problématique mondiale auquel beaucoup de gens fuient l'insécurité, la pauvreté, les conditions climatiques pour chercher une vie meilleure, l'accès à l'éducation, l'accès à une paix sociale. Donc, à un certain moment, pour la multiplication de ces conflits en Afrique, en Asie, a fait en sorte que un flux important de personnes se sont déplacées du sud vers le nord dans des conditions des fois inhumaines où beaucoup de gens ont perdu leur vie dans la mer. Donc, des centaines de vies tombent chaque année, des milliers même chaque année. Aussi, de la multiplication aussi des problèmes sécuritaires dans le Sahel, dans la région du Sahel, a fait en sorte que aussi l'Algérie, qui était terre émettrice des migrants, est devenue terre de migration, où beaucoup de migrants subsahariens se sont trouvés refuge en Algérie. La crise en Libye, au Mali, l'insécurité dans la région du Sahel a fait en sorte que beaucoup de subsahariens se sont déplacés en Algérie. Soit certains considèrent l'Algérie comme une phase de passage pour aller vers le nord, ou certains ont trouvé refuge pour s'installer. Donc toutes ces conditions, cette question, je vous pose la question à tout le monde, cette question, comment elle se présente dans son volet à la fois humanitaire et son volet, c'est-à-dire sécuritaire et tout, dans toutes les volets, comment cette question évolue, vous la voyez, comment vous la présentez.
Azul Flaoun, merci pour l'invitation. Pour ce qui est du phénomène de l'immigration en Algérie ou bien dans le monde entier, déjà, il faudra savoir que ces immigrés ne sont pas venus, je parle des immigrés subsahariens, ne sont pas venus ici pour des loisirs ou bien pour autre, mais ils se sont enfuis par rapport à leur situation très défavorable dans leur pays, qui souffrent de pauvreté ou bien d'insécurité, comme vous l'avez dit dans votre intervention. Nous, comme étant que des jeunes et des militants des droits humains, on a jugé que ces gens-là ont vraiment besoin de beaucoup d'aide de la part de la société ou bien des autorités publiques.
D'accord. Donc, ces gens se retrouvent dans une situation, pas dans le loisir, mais beaucoup plus à la recherche d'une paix, d'un avenir meilleur. Et même aux médecins du monde, comment vous vivez au quotidien cette présence des migrants et aussi leurs conditions?
Bonjour à toutes et à tous. Merci Araj pour l'invitation. Alors concernant la question de la migration en Algérie, vous l'avez vous-même dit, l'Algérie était un pays où les gens partaient. Maintenant, l'Algérie est un pays d'immigration, mais également de transit. De plus en plus nombreux sont les migrants subsahariens qui traversent l'Algérie ou s'installent plus ou moins durablement en Algérie. Des hommes, des femmes, mais également des enfants. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui est très important parce que ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants qui font le trajet migratoire avec leurs parents dans des conditions plus ou moins assez compliquées. La dernière actualité où on a entendu parler de 20 enfants qui sont morts au Niger lors du trajet pour venir en Algérie, ce qui s'est passé juste la semaine dernière est assez démonstratif des conditions de traversée de ces enfants-là, mais également des enfants qui naissent en Algérie, dont les parents ont fait le trajet migratoire et qui vivent ici avec eux dans des conditions plus ou moins compliquées. Nous, au Centre Médecins du Monde, on essaye d'accompagner ces personnes, notamment les femmes et les enfants, sur le volet santé. On les sensibilise à leur santé, on les informe de comment ça marche, le système de santé algérien, comment ça fonctionne. On sensibilise aussi les institutions sanitaires, donc les hôpitaux, les centres de santé, sur l'importance de prendre en charge les migrants subsahariens en Algérie.
Monsieur Imen, donc la présence de ces migrants est une présence assez remarquable aussi, dans des conditions un peu délicates. Moumen, comment vous voyez cette condition aussi, comment les choses évoluent par rapport à ça?
Merci Kamel, merci pour cette invitation et je félicite Raj pour cette radio et cet espace d'expression. Effectivement, et pour le choix aussi de cette thématique qui concerne l'enfant migrant ou l'enfant africain, mais dans une perspective de migration. Avant de répondre à ta question, je rappelle juste deux évidences par rapport à la question migratoire et qu'on occulte volontairement ou inconsciemment, c'est que la migration est un phénomène mondial, planétaire, qui concerne l'humanité depuis que l'humanité existe. D'ailleurs, il y a un autre thème qui prend un peu sa place, on parle de mobilité. D'ailleurs, depuis que les individus existent, ils ont été dans une mobilité pour X raisons. Et de ce point de vue, l'Algérie ne peut pas être en dehors de ce cadre planétaire. Deuxième élément, c'est que on parle migration sud-nord. Il faut rappeler aussi que l'écrasante majorité de la migration se déroule dans le sud. Sud-sud. Et que voilà, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens du Sud, on ne doit pas répercuter cette vision égocentrique qu'il y a le Nord en disant qu'il y a l'invasion du Sud vers le Nord. Or, c'est pas vrai. C'est le Sud qui supporte le plus grand nombre de migrants, de la mobilité humaine depuis toujours. Donc maintenant, on revient effectivement à l'Algérie. Quand j'ai dit que l'Algérie ne peut pas être en dehors de ce processus humain, effectivement, maintenant il y a des conditions objectives qui ont fait que ces dernières années, l'Algérie connaît une présence migratoire. Vous avez déjà souligné quelques points. Je pourrais rajouter que effectivement, étant donné que l'Algérie durant les années 90, ce qu'on appelle la décennie noire, etc., n'était pas un terrain propice pour une migration, donc il était tout à fait normal qu'il n'y ait pas des gens qui viennent en Algérie parce que l'Algérie n'était pas sûre. Voilà, pour dire les choses simplement. Et une fois que la situation s'est améliorée, l'Algérie est entrée aussi dans une aisance financière qui a permis le développement d'une activité économique plutôt notamment dans le chantier de construction et travaux publics. Ça, c'est des secteurs qui sont attractifs pour la main d'œuvre. Donc effectivement, à partir de là, il y a beaucoup de subsahariens qui étaient dans un projet de migration vers le nord, effectivement, mais qui se sont retrouvés en Algérie avec cette opportunité de pouvoir travailler, même si après on reviendra dans le débat, même si c'est le travail, les conditions de travail sont très difficiles, c'est un travail au noir, pas officiel, il n'y a pas de protection, etc. Mais pour certains, cela constitue une opportunité, donc ils ont été travaillent aussi dans ce domaine, c'est-à-dire cette situation économique, disons, a favorisé ou a encouragé certains de rester. Troisième élément, c'est que l'Europe se ferme de plus en plus. Effectivement, face à une difficulté d'accéder à l'Europe, eh ben le choix, plutôt plus pour certains, c'est un non-choix, c'est-à-dire de rester dans le pays du Maghreb, étant donné que le passage de la Méditerranée devient de plus en plus compliqué, difficile, voire mortel. Et effectivement, on parle maintenant du cimetière, la Méditerranée est devenue un cimetière.
Oui, c'est la Méditerranée est devenue un triste cimetière pour des gens qui, même malheureusement, même des enfants à bas âge qui font le trajet, et beaucoup d'enfants disparaissent. Donc, ces enfants, ces migrants, globalement, certains viennent tout seuls, d'autres viennent en famille, d'autres viennent avec des enfants qu'on en voit tout le temps dans la rue, qu'il y a des familles tout entières qui sont ici. Mais nous posons la question que ces enfants, comment ils sont dans la rue livrés à eux-mêmes, ni santé, ni accès à l'éducation, ni accès à la santé, vu que leur famille, déjà leurs parents se retrouvent dans des sans-abri. Comment se fait, c'est-à-dire, Iman, comment vous faites comment se fait l'accueil de ces migrants, si les démarches se font par rapport à essayer d'approcher ce migrant, cet enfant, avec les autorités par rapport à l'intégration de ces enfants dans le système scolaire algérien, dans certains qui sont nés sont pas le système scolaire algérien, ils se retrouvent pas d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de la possibilité, de la nécessité d'intégrer ce des gens, et aussi dans le système de santé par rapport aux enfants, même si l'école algérienne elle est une école gratuite qui garantit l'accès à l'éducation et à la santé. Comment se fait le quotidien aussi par rapport à ces migrants qui sont désarmés, qui ne savent pas, des fois la vie elle est dure pour qu'ils puissent pouvoir comprendre comment agir pour avoir au moins accès à la santé et l'éducation de leurs enfants.
Je pense que avant d'aborder la question de la scolarisation et de la santé, je pense qu'il est important de rappeler que, et surtout de m'expliquer, que les enfants qui sont présents dans les rues, dans les grandes villes, Alger, Oran, Annaba, sont pour la plus grande majorité des Nigériens. En fait, la migration subsaharienne, elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que la migration, elle ne date pas de 2 ans ni de 3 ans. Il y a en Algérie des migrants qui vivent ici depuis de nombreuses années. Par contre, en ce qui concerne les Nigériens et leur présence dans la rue, donc cette question-là est assez nouvelle, elle ne date que de quelques années, où on voit de plus en plus nombreux les migrants, notamment des femmes et des enfants, qui sont présents dans la rue et qui vivent dans des conditions terribles et limite inhumaines, dans des conditions d'insalubrité la plus totale et de vulnérabilité la plus totale. Ces enfants-là, malheureusement, nous, au sein de Médecins du Monde, on n'a pas accès à ces enfants-là parce qu'ils sont dans une mobilité permanente. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans une seule ville et qu'ils se déplacent énormément et qu'il est compliqué de rentrer en contact avec les familles. On a tenté, on a fait une grande campagne au niveau d'Oran de vaccination des enfants, qui a été très bien prise en charge par les centres de santé au niveau d'Oran. Donc cette campagne-là date de l'année dernière, où on a réussi à scolariser, à vacciner 120 enfants. Donc 120 enfants qui ont été vaccinés. Par contre, en ce qui concerne les autres nationalités de migrants subsahariens qui sont présents dans les grandes villes du pays et en Algérie en globalité, donc ils vivent généralement dans des habitations, certes pas très bien pris en charge, mais ça reste
un abri.
Exactement, un refuge qui est bien meilleur que ceux des Nigériens qui malheureusement vivent sous des tentes, sous des sacs plastiques. Donc ces enfants-là pour les autres nationalités, vivent dans des quartiers avec les Algériens, tout à fait normalement, avec leurs parents, leur mère ou leur père ou les deux en même temps. Ils sont dans leur globalité très bien pris en charge sur le volet santé parce que les parents sont très à l'écoute de la santé de leurs enfants. C'est pour eux, c'est quelque chose de très important. Si vous posez la question à un migrant votre enfant est malade, il va vous dire je l'emmène à l'hôpital. Si vous lui posez la question si vous êtes malade, qu'est-ce que vous ferez, et il va pas vous dire je vais revoir à l'hôpital. Mais pour ce qui concerne les enfants, ils sont très à l'écoute de la santé de leurs enfants et pour eux c'est très très important. Mais on reste toujours, nous à Médecins du Monde, on reste toujours dans la sensibilisation et dans l'information parce que c'est important d'expliquer comment ça marche le système de santé algérien. Pour la majorité d'entre eux qui viennent parfois d'arriver, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas que quand on est malade il faut aller aux urgences, ils savent pas à quel service ni à quel hôpital, parce que dans les quartiers c'est un peu compliqué. Et donc c'est pour ça que nous on favorise la sensibilisation dans les centres de santé proches des lieux de vie, là où ils connaissent, là où ils savent déjà comment ça marche, et aller à côté quand on est malade et pouvoir se faire soigner rapidement. En ce qui concerne la question de la scolarisation, en fait on s'est rendu compte que certains enfants qui avaient l'âge d'aller à l'école jusqu'à l'année dernière allaient à l'école privée quand les parents avaient les moyens, ce qui ne se fait malheureusement pas tout le temps, et généralement dans la plus grande majorité n'allaient pas du tout à l'école. Ce qu'on a essayé de faire avec des partenaires, nous Médecins du Monde, mais également avec d'autres partenaires associatifs, on a essayé de contacter le ministère de l'Éducation nationale en disant qu'il y avait des enfants qui avaient l'âge d'aller à l'école, donc qui avaient 6 ans, mais que malheureusement ils sont en dehors du système scolaire. Et en fait, à notre plus grande surprise, le ministère de l'Éducation nationale a été très coopératif et nous a bien expliqué que l'école en Algérie était une obligation et non pas un droit. Donc tous les enfants qui étaient présents sur le sol algérien avaient obligation d'aller à l'école, et que du coup on a pu, grâce à l'autorisation du ministère de l'Éducation, scolariser des enfants à l'école publique. Donc c'est-à-dire qu'ils vont à l'école avec tous les autres enfants et ça se passe le plus normalement possible. L'année dernière, on a réussi à scolariser 25 enfants et on espère que cette année, on arrivera à scolariser un nombre plus important d'enfants parce que il existe des enfants qui ne vont pas encore à l'école. Et c'est important de sensibiliser et les pouvoirs publics sur leur présence, mais également les parents sur l'importance de scolariser les enfants à l'école.
Oui, dans le cas de ces scolarisations des enfants, parce qu'on a des migrants qui sont dans de situation irrégulière, est-ce que leurs enfants ont accès, parce que certains n'ont pas, même pas de papier, certains sont nés en Algérie, comment se font, est-ce qu'il y a certains qui peuvent accéder à le système scolaire, est-ce qu'il y a des possibilités pour ces enfants d'accéder à l'école?
En fait, sur les 25 enfants qu'on a scolarisés l'année dernière, il y a des enfants qui ont un certificat, un extrait de naissance parce que né en Algérie, et que c'est automatique normalement quand on est en Algérie, on a un certificat, un extrait de naissance. Parfois ça n'arrive pas malheureusement, mais c'est plus par manque d'informations qu'autre chose. Mais aussi des enfants qui n'ont aucun document d'identité. Et donc le ministère de l'Éducation ne nous a pas demandé de dossier de l'enfant en fait. On ne donne que son nom, prénom et son âge, donc qui prouve qu'il a 6 ans et plus. Et à partir de là, on peut demander l'autorisation de scolariser l'enfant à l'école publique, proche de là où il habite.
D'accord. Ouais. C'est la question de l'école des réfugiés à Tizi Ouzou. Comment c'est venu l'idée de la maturation de cette idée? Comment vous avez pu mettre en œuvre cette démarche? Comment a été ressenti par les familles d'immigrants qui étaient présents à Tizi Ouzou?
Pour ce qui est de l'école des réfugiés, donc on avait établi un constat, comme tout le monde vient de le faire. Il y avait une venue massive des réfugiés ces derniers mois ou bien ces dernières années. Donc on a pris l'initiative, on s'est dit que voilà, on a besoin d'aider ces réfugiés qui ont besoin de nous. Donc on s'est dit avec quels moyens qu'on pourra les aider, qu'est-ce qu'on a à partager, et on a constaté qu'on pouvait partager le savoir qu'on a comme étant qu'étudiant. Certainement, on ne leur a pas partagé un savoir avec lequel ils pourront être des médecins ou bien, mais voilà, ce qu'on s'est dit, qu'on va on les partage par groupe. Il y a les enfants et les adultes. Pour ce qui est des enfants, on leur fait la prise de contact avec les stylos, avec les crayons, etc. Puis, pour le deuxième niveau, il y avait un contact avec le corps. On leur apprenait à colorer. Puis ensuite, leur apprendre à la l'alphabet, les nombres, etc. Pour ce qui est des études, c'était un apprentissage de langue beaucoup plus. C'est un moyen de communication pour au moins leur apprendre à communiquer avec les gens, à leur demander une bouteille d'eau ou bien autre chose. Mm-hmm. Voilà.
Donc c'était votre initiative, c'est l'une des initiatives citoyennes qui de la société qui permet à ces enfants de sentir de leur enfance et de la vivre afin de s'épanouir. Et comment la société ressentit cette initiative par rapport à des citoyens, des riverains, par rapport à eux-mêmes, à des étudiants, comment ils étaient recevaient cette action, parce qu'à un certain moment les gens ont besoin de... on entend de temps en temps, il y avait des difficultés de contact par rapport à... Surtout pour les enfants qui se sentent un peu isolés du reste de la société. Comment ça...
Donc, au début, quand je l'avais initié, c'était un projet d'école de réfugiés. Puis, au fil du temps, avec l'ampleur que ça a pris, et avec l'aide de toute la société qui a répondu très favorablement à cette action, ça le projet s'est transformé en projet d'aide aux réfugiés. On avait beaucoup de matériel logistique ou bien des fournitures qu'on leur donnait chaque semaine. Ceci c'était grâce à la mobilisation de toute la société. C'est certainement, il y avait au fil du temps, il y avait beaucoup d'Algériens qui maltraitaient ces réfugiés. Il faut pas voiler la face, faut le dire. Certainement il y avait des gens qui ne les acceptaient pas, mais on a fait un travail de sensibilisation et on le fait toujours afin de vraiment aider ces gens-ci. Et si l'État prévoit de les laisser ici sur notre terrain, donc ils vont s'intégrer, et si l'État prévoit de les répatrier dans leur pays, ils auront au moins appris un bagage d'ici en Algérie, et leur passage va leur servir ils auront un bagage avec quoi ils pourront travailler dans leur pays.
Merci Nassim. Donc vous tant que dans la ligue aussi, tant que dans comment la ligue s'implique dans cette question de l'immigration par rapport aussi à l'action citoyenne, parce que le plus important pour nous, comment faire en sorte que cette action citoyenne va faire en sorte de porter le débat, c'est un débat national pour une vision globale par rapport à l'immigration, parce que il suffit pas d'aide élémentaire, mais il nous faut une vision globale par rapport aux migrants, par rapport à l'immigration, parce que elle doit s'insérer dans un système global qui va nous permettre à la fois de partager leur expérience, leur savoir aussi. Ils ont un certain savoir, mais aussi ça nous permet à nous aussi d'échanger avec eux, qu'ils s'épanouissent aussi avec la société.
Tout à fait. Je tiens à rappeler que la Ligue, par exemple, a commencé à travailler sur la question migratoire à travers les Havagas. C'est important de le rappeler pour dire que si on est face à des phénomènes semblables, qu'on ne peut pas être sensible à nos migrants quand ils quittent la Méditerranée et ne pas être sensible aux migrants qui traversent le désert. Donc nous, on a été, avant que la migration devienne réalité en Algérie, on a été sur la question des Havagas, notamment les disparus etc. Et c'est petit à petit que on s'est aperçu que les Havagas existaient aussi en Algérie. C'est-à-dire, il y a des migrants qui sont en Algérie. Ça a commencé en 2005, lorsque, essentiellement, à Ceuta y Melilla, donc, l'enclave espagnole, ils ont commencé à mettre des barbelés, et donc, c'était de plus en plus difficile pour les migrants d'accéder au territoire européen. Et donc, ils étaient à Oujda, à Marnia, et c'est à partir de là on a commencé à nous intéresser à cette thématique pour dire que les choses évoluent. La situation évolue, les choses évoluent, et heureusement, la mobilisation de la société civile évolue aussi. Donc, si vous voyez l'état de la société civile en 2005, 2006 et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une évolution, qu'il y a de plus en plus d'associations qui s'impliquent sur la question migratoire. Donc, ça a des éléments positifs. Malheureusement, on a l'impression que les autorités n'évoluent pas par rapport à la prise en compte de cette réalité. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un déni de réalité de la la part des autorités qu'on ne veut pas traiter la question migratoire en tant que réalité algérienne, si je peux dire. Et à partir de là, il y a le décalage entre la pratique et la norme, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, c'est pas une norme, c'est juste un ministère qui a fait une dérogation ou qui a été coopérative avec sous la sollicitation de la société civile. Ils n'ont pas une volonté, une stratégie pensée par les autorités avec une vision globale en disant il y a des enfants qui naissent en Algérie, qu'est-ce qu'on va en faire d'ici 5 ans, ils seront toujours en Algérie, d'ici 10 ans ils seront toujours en Algérie, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va en faire de cette population? Alors on va pas les expulser parce que ça se fait pas, et on va pas les reconnaître parce que sous prétexte ou peut-être qu'il y a une peur, ce qui est plus ou moins normal dans toutes les sociétés qui ont dû impliquer ou plutôt qui ont eu affaire à la question migratoire en tant que réalité de leur propre société, il y a eu des résistances. Donc c'est normal de trouver des résistances. Ce qui est pas normal, c'est de trouver des personnes qui poussent les limites de ces résistances pour justement ouvrir de plus en plus de perspectives ou de plus en plus d'accès aux droits à ces populations-là, notamment les enfants, parce que voilà, quand un enfant est né en Algérie, il va grandir, il va devenir adulte en Algérie sans aucun statut. C'est terrible comme réalité. Donc nous à la Ligue, on essaie d'aller vers de pousser justement ces limites, de pousser les peurs en disant il faut prendre la question sur le plan global, stratégique, réfléchi, en se basant, parce qu'il y a aussi un cadre qui existe, en se basant sur les engagements internationaux pris par l'Algérie, la Convention des travailleurs migrants, la Convention de l'Union européenne, la Convention des réfugiés, des droits des réfugiés. Donc, il y a un certain nombre de cadres qui permet, les instruments qui existent et qui permettent à l'Algérie, à l'État algérien, d'aller plus loin dans la garantie des droits pour ces populations-là.
Merci Moumen. Donc, je pense qu'on va, faire une petite pause pour qu'on puisse revenir dans la deuxième partie pour parler sur la question, l'apport de ces migrants à l'économie algérienne, à la société algérienne, mais aussi comment ils évoluent sur le plan économique, parce que un parent qui travaille, qui gagne, qui est sécurisé, qui a une sécurité sociale, un abri, il pourra louer un abri pour ses enfants. Ses enfants peuvent être bien, c'est-à-dire auront accès à la santé, ils peuvent aussi accès à l'éducation, même si on a certaines difficultés. On entend toujours des gens, des femmes enceintes interdites d'accès à des hôpitaux, ils accèdent difficilement à des hôpitaux parce que certains médecins refusent de les soigner, ou peut-être des gens, même des migrants qui sont malades, refusent d'aller dans des hôpitaux par peur d'être extradés, d'être mis dirigés par le poste police et seront éventuellement reconduits chez eux. Donc on va reprendre tout ça dans la deuxième partie de l'émission. On revient après le jingle.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs, auditrices de la web radio du Rage, voix de jeunes, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que dans cette deuxième partie de l'émission Café des Libertés, qui est consacrée à l'occasion de la journée de l'enfance africaine le 16 juin de chaque année, à l'immigration, à des enfants migrants, mais aussi à l'immigration d'une manière dans sa globalité en Algérie. Je rappelle nous inviter Khal Moumen Khalid, secrétaire général de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et membre du comité de coordination de la plateforme Migration Algérie, Blaouar Nassim, étudiant et militant des droits humains, et un des initiateurs de l'école de réfugiés à Tizi Ouzou, Imen Ben Chaouch, chargé de plaidoyer et d'action aux droits des migrants à Médecins du Monde Algérien. Dans la première partie, on a traité dans sa globalité les enfants migrants, leur accès aux soins, à l'éducation, les migrants aussi, dans quelles conditions se retrouvent, dans quelles la misère qu'il rencontre aussi, comment, quelles sont les actions qui ont, les actions d'une manière globalité au niveau du Médecins du Monde, comment ils font pour sensibiliser les gens, comment sensibiliser les migrants de la nécessité d'accès du système de santé algérien aussi. Il y a on a parlé de l'initiative, une des initiatives de la société par rapport à l'aide de la société que peut apporter à ces migrants. Aussi, on a abordé la question de dans quel cadre évoluent ces migrants. Dans cette deuxième partie, nous allons parler justement de cette migration qui est de positive beaucoup plus que négative, dans son aspect positif, mais par rapport dans son apport sur le plan économique et ces migrants dans la société algérienne, comment ils évoluent, comment ils vivent, parce qu'un enfant il a besoin d'être de nourriture, son père, ses parents doivent travailler pour gagner du pain et aussi afin d'assurer à leurs enfants l'accès à la santé aussi, pour l'accès à la santé en même temps afin de pouvoir pour les éduquer, c'est l'accès. On peut parler de l'accès au travail, à la sécurité sociale, aussi dans le cadre législatif, la loi algérienne, est-ce qu'elle permet dans les contraintes de la loi algérienne par rapport aux migrants, parce que les migrants, on a deux types de migrants, le migrant légal ou le migrant qui sont dans une situation illégale, aussi les réfugiés, donc aussi, il y a aussi une autre partie, ce qui est la plateforme Migration Algérie, c'est une des actions de la société civile, de la prise de conscience de la société civile, c'est de la volonté de cette société d'avoir une vision globale par rapport à la migration en Algérie. Donc, comment dans la Ligue voit cet arsenal juridique en Algérie, la loi fondamentale sur les réfugiés, sur la migration en Algérie n'est pas encore adoptée, n'existe pas. Donc, on a une loi, un cadre qui réglemente le séjour des étrangers. Donc, comment?
Non, concernant l'arsenal juridique, enfin, sur le plan national, il y a la loi 0811 qui gère l'entrée, qui concerne l'entrée et le séjour des étrangers. Donc, en général, et dans cette loi, on parle de séjour irrégulier, l'entrée de séjour irrégulier, et qu'il y a des dispositions, c'est-à-dire qui criminalisent l'entrée et le séjour irrégulier pour les étrangers. Plus que ça, la loi criminalise aussi l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier des étrangers. Ce point-là est important. C'est vrai, dans l'esprit de législateur, peut-être que cette loi vise à combattre les réseaux de la traite, de trafic, mais une telle disposition reste problématique pour la société civile, dans la mesure où la société civile intervient dans l'aide aux migrants, quelle que soit leur situation, et généralement, on aide ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité, donc ceux qui sont dans une situation irrégulière. Donc ça, c'est un obstacle par rapport pour l'action de la société civile. Comme j'ai dit tout à l'heure, la société civile a évolué, nous sommes arrivés même maintenant à... Il y a un collectif d'associations qui a créé la plateforme Migration Algérie. Donc, c'est un réseau associatif dont fait partie la LADDH, Médecins du Monde et d'autres associations. Et il y a même des collectifs de migrants, justement, pour essayer de faire un plaidoyer pour faire évoluer l'arsenal juridique. Par rapport là, on part sur la question des réfugiés, elle est importante aussi, parce que faut pas qu'on confond entre migrants et réfugiés. Le réfugié est protégé par la Convention de Genève sur les réfugiés. Donc l'Algérie a ratifié cette convention. Il y a même le HCR qui gère justement la question des réfugiés en Algérie parce qu'il n'y a pas de loi d'asile. La loi d'asile algérienne n'existe pas encore. Ce qui est problématique parce que les réfugiés restent dans une situation aussi où il n'y a pas optimisation des droits. C'est-à-dire ils ne peuvent pas bénéficier de leurs droits tels que sont garantis par la Convention de Genève, faute de l'existence d'une telle loi nationale. C'est problématique. Maintenant, je prends un exemple concret. Maintenant, en Algérie, il est impossible de créer une association. Par exemple, nos amis de Tizi Ouzou, s'ils veulent faire évoluer leur collectif en une association en aide aux réfugiés ou en aide aux migrants, il est impossible d'avoir un agrément d'une telle association parce que il y a les obstacles de la loi 0811 qui dit que aider, donc l'ambiguïté de cette loi. Mais il y a aussi la loi sur les associations. Sur les associations, création des associations est complètement contraignante et rend impossible une telle initiative. Donc c'est pour ça on dit que nous, dans le cadre de la Ligue ou de la plateforme, on essaie de faire évoluer le cadre juridique parce qu'on ne peut pas aller loin sans un cadre juridique.
C'est vrai, on ne peut pas aller loin parce que le cadre juridique ne permet pas, même la création d'associations d'aide, d'aide aux réfugiés, il est très difficile, très délicat d'organiser des actions humanitaires. Les actions humanitaires, mais aussi, moi, je veux rebondir sur la question de aussi l'accès au travail de ces, parce que le code de travail algérien est très contraignant par rapport à l'accès des migrants au travail, et ils travaillent aussi dans des conditions extrêmement délicates. Ils sont surexploités. Des fois, ils travaillent avec des salaires de misère. Des fois, ils sont pas payés. Des fois, même l'accès à la sécurité sociale, n'est pas possible. Donc ça a un lien par rapport à cette volonté de cette manque de vision de la société de l'État, mais aussi une vision assez un peu floue, parce qu'à un certain moment on dit que le secteur du bâtiment, de la construction, a besoin de la main d'œuvre subsaharienne,
agriculture aussi
a besoin de cette main d'œuvre pour qu'elle puisse des officiels l'ont déclaré, donc mais rien n'a été fait pour ça, donc je pense que c'est un des chantiers de
tout à fait. C'est-à-dire ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ce dossier-là, les autorités reconnaissent l'apport d'immigrants dans l'économie algérienne. Il y a qu'à faire le tour des chantiers, même ceux commandés par les autorités, donc des chantiers publics. Vous allez trouver de la main d'œuvre subsaharienne. Donc face à ce déficit, donc on tolère l'existence de ces personnes. On tolère leur apport dans la construction ou dans l'agriculture notamment, donc la récolte essentiellement. Il y a un vrai problème de récolte, et donc les fellahs vont souvent voir les migrants pour faire le travail de la récolte, mais en contrepartie on ne veut rien leur donner, c'est-à-dire leur concéder. Donc vous venez, vous travaillez, il n'y a aucune manière de contrôler les conditions de travail, de contrôler le coût de travail, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont rémunérés au même titre que les Algériens ou ils sont exploités. Généralement, une personne en situation de vulnérabilité est plus susceptible d'être exploitée que l'inverse. Donc face à ça, on reconnaît qu'ils apportent quelque chose au chantier, à la construction, donc à l'économie en général, mais on refuse leur existence en tant qu'individu, en tant qu'acteur. C'est problématique pour l'accès aux droits.
Oui, c'est très problématique aussi. Les migrants, dans leur action, dans leur regroupement, il y a des associations des migrants. Donc, comment vous recueillez, Iman, au sein du Médecin du Monde, les soucis, ces difficultés de ces migrants qui sont surexploités dans les chantiers du bâtiment par les particuliers. Ces difficultés de gagner leur vie, comment ils influent directement sur les enfants, comment ils peuvent, du fait de leur accès, comment une famille simple, un parent migrant qui est surexploité, comment peut-il arriver à faire en sorte que ses enfants vont être scolarisés aussi, comment vous êtes en contact permanent avec eux, comment ils expriment leur calvaire vis-à-vis à ça, à tout ça, mais aussi la réalité qui fait en sorte que les associations telles que Moumen l'a bien souligné, c'est que c'est un contexte qui est difficile pour les associations algériennes d'avoir des actions en leur faveur. Comment vous faites en sorte, vous arrivez à pouvoir ressentir ce malaise de ces gens et probablement de les orienter pour qu'ils qu'ils puissent défendre leurs soldats. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à dire que voilà, nous, je suis surexploité, n'est pas payé par tel ou tel gens, est-ce qu'il arrive à casser cette omerta?
Au sein de Médecins du Monde, on fait vraiment un travail de proximité. C'est-à-dire qu'on va vers les personnes en situation de vulnérabilité pour les accompagner surtout sur le volet santé. Certes, on reçoit beaucoup de témoignages de gens qui travaillent sur des chantiers, qui essayent de gagner leur vie, mais en même temps, ils sont assez reconnaissants de pouvoir travailler, en fait. Comme vous dites, c'est des familles. Donc, il faut faire vivre la famille, il faut pouvoir habiller l'enfant, il faut pouvoir aller au marché pour acheter à manger. Donc, pour eux, c'est important de pouvoir travailler et concrètement ils parlent pas d'exploitation en fait, ils parlent de possibilité de travailler assez bancale parce que comme l'a dit Moumen, du jour au lendemain ça peut changer malheureusement étant donné qu'il n'y a pas de cadre juridique, donc c'est assez compliqué pour eux, mais concrètement ils sont assez reconnaissants de pouvoir travailler, chose qui n'est pas possible dans d'autres pays limitrophes par lesquels ils peuvent passer aussi pour aller en Europe. En Algérie ils ont cette possibilité de pouvoir gagner de l'argent pour travailler et faire vivre leur famille, donc on n'a pas forcément à notre niveau entendu parler de d'exploitation ou quoi que ce soit. Leur statut vulnérable fait que parfois ça peut arriver qu'ils ne soient pas payés, qu'ils soient mal payés, mais après on a eu des témoignages et Moumen peut en témoigner d'autorités qui disent que nous on peut aller sur place, notamment de gendarmes qui disent qu'on peut aller sur place pour faire que ces personnes là soient payées, et ça c'est quelque chose de super important à relever et à préciser.
Je pense que le problème se pose plus pour les femmes que pour les hommes aussi. Les femmes, c'est beaucoup plus problématique l'accès au travail. Et elles sont beaucoup plus exposées à l'exploitation, justement.
Tout à fait. En fait, oui, les hommes travaillent sur les chantiers, mais les femmes travaillent aussi. On ne le voit pas, mais elles travaillent chez elles. Elles font de la coiffure, elles font des ménages, elles font à manger aussi, elles vendent de la nourriture, elles font des petits commerces, mais c'est chez elles. C'est moins visible et c'est plus, comme tu dis, Moumen, plus facile de les exploiter, en fait, parce qu'elles ne sont pas visibles et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les maisons. Là, je suis d'accord. En ce qui concerne la réponse qu'on peut apporter nous, donc nous ce qu'on peut faire c'est les sensibiliser sur leurs droits, ça c'est quelque chose d'important, de dire que ces personnes-là ont des droits en tant qu'êtres humains, ce qu'on appelle les droits humains, et que c'est important de montrer qu'ils connaissent leurs droits, voilà. Donc nous sur ce volet-là, donc on travaille avec un travail de proximité, de sensibilisation et d'information, mais également ce qu'on essaye de faire c'est de mobiliser la société civile algérienne pour qu'elle puisse répondre à ces questions d'accès aux droits et elle puisse aussi sensibiliser de leur côté les migrants subsahariens, donc avec la plateforme Migration Algérie dont on mène à parler un peu, qui est une plateforme multi-acteurs qui regroupe aussi bien des associations que des collectifs de migrants. Ça c'est important parce que comme notre adage au sein de la plateforme c'est travailler avec et pour les migrants, mais aussi des personnes ressources, donc des avocats, des soignants qui sont impliqués sur la question de la migration. Et donc notre but, c'est dans un premier temps d'échanger entre nous sur l'évolution de la situation et comment nous on peut aider, de travailler sur des cas concrets, c'est-à-dire quand une personne par exemple n'arrive pas à aller se faire soigner, on mobilise les acteurs associatifs qui peuvent soutenir cette personne. Et sur un troisième volet, on travaille sur le volet du plaidoyer pour l'amélioration de l'accès aux droits des migrants. Actuellement, cette plateforme, elle regroupe 17 associations, 2 collectifs de migrants et 7 personnes ressources, donc c'est un nombre assez important, sur des régions telles que Alger, Oran, Annaba, Constantine, Tamanrasset, donc un large panel de régions là où les migrants sont le plus présents, en fait, et on essaye du coup de mobiliser la société civile pour qu'elle puisse, elle, à son niveau, regrouper, travailler auprès des migrants et les soutenir et les informer et les aider.
D'accord. Donc la plateforme Migration Algérie, c'est une plateforme qui ressemble à un bon nombre d'associations et de centres et de personnes ressources.
Il faut le dire, Raj fait partie de cette plateforme.
Hein. Oui, fait partie, bien sûr, j'allais le dire. Donc pour nous, la question de l'immigration ici, c'est une question de droit d'accès à la libre circulation des êtres humains et c'est aussi le droit à l'accès au travail et à la santé tel que stipulé dans la charte des Nations Unies par rapport aux droits de l'homme. De justement pour rester sur cette question de la société civile et la plateforme, parce que le migrant c'est quelqu'un qui a besoin d'être d'une action qui est auprès de sensibilisation d'acteurs associatifs qui sont opérés pour répondre à ces attentes et aussi à parler de ces parce que les migrants sont des gens qui, pour certains, qui ont peur d'être refoulés chez eux, dans les enfants. bon, les enfants du Nigeria et tout, et à un certain moment, il y avait des campagnes de, d'entre parenthèses, de rapatriement de des milliers de personnes. Mais quand on est, ces programmes d'inscription de ces enfants à la scolarisation, on a vu des centaines de milliers de femmes, d'enfants qui sont refoulés aux frontières. Donc, ces programmes de scolarisation, ils sont tributaires de la présence de ces enfants au sol algérien, mais aussi au risque de ces enfants d'être retournés dans un climat d'insécurité dans leur pays. Donc, comment se fait-il que on donne l'accès à ces enfants, de possibilité d'accès à ces enfants à la scolarisation, mais en même temps, on les refoule chez eux dans des conditions des fois difficiles?
Enfin, tout simplement, on ne parle pas des mêmes enfants. C'est-à-dire, il y a deux, ce qu'on m'a expliqué au début de l'émission. C'est-à-dire, il y a les migrants qui sont dans les grandes villes, qui sont installés depuis de nombreuses années, et les migrants qui viennent du Niger et qui sont dans une mobilité permanente effectivement, et que il faut le dire, qui ne vivent que de la mendicité. Donc c'est un phénomène particulier, une migration particulière. Malheureusement, que ce soit les autorités ou que ce soit même la société civile ou l'académicien, on n'a pas fait encore d'études sérieuses sur ce phénomène-là. Qu'est-ce qui fait que des gens de Niger, je dis Niger pour ne pas confondre avec le Nigeria, parce que donc je précise le pays. Qu'est-ce qui fait que des gens du Niger arrivent depuis 2 ans, 3 ans maximum, viennent en nombre important en Algérie pour justement avec femmes et enfants et pour ne vivre que de la mendicité et dans une mobilité permanente. Je pense que ça mérite une vraie étude, une vraie prise en charge, que ce soit de la part des autorités ou de la société civile. Malheureusement, la réponse des autorités a été sur le rapatriement, ce qu'ils appellent le rapatriement volontaire, ce que nous, la Ligue, appelons expulsion. Et ce n'est pas une solution dans la mesure où des gens qui ont été expulsés se retrouvent encore dans les villes algériennes. Ça n'a rien réglé, ça n'a pas réglé à la problématique. C'est une vraie problématique parce que derrière, il peut y avoir ou il pourrait y avoir des réseaux d'exploitation. Quand on voit des nombres importants d'enfants et de femmes qui arrivent dans les grandes villes, on se doit de poser la question des réseaux d'exploitation. Et comment se fait-il effectivement, et pour trouver des solutions pour aborder cette question, il faut faire un travail sur tout le trajet. Déjà au départ, expliquer pourquoi les gens quittent. Déjà, premier élément dont on dispose, c'est les gens du Niger, ce n'est pas les régions nord, donc frontalières de l'Algérie, qui sont concernées par cette mobilité. Eux, ces populations ont l'habitude de traverser la frontière sans aucun problème et s'installent dans le commerce, etc., au niveau des villes du sud algérien. Mais on est face à une population qui vient beaucoup plus de sud du Niger. Sud-sud-est. Donc, est-ce que c'est la famine au Niger? Est-ce que c'est une problématique avec la famine? Il faut dire que le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc, c'est un problème. Est-ce que c'est dû avec le problème de l'insécurité, avec le mouvement de Boko Haram qui touche aussi le Nigeria, le Cameroun, mais aussi le Niger?
Il y a le Mali aussi.
Voilà. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que la question du Mali, la guerre du Mali qui a ouvert une opportunité, j'allais dire, pour ces populations? Toutes ces questions n'ont pas été traitées, n'ont pas été notamment par les autorités. On nous explique seulement qu'il y a eu un accord sous demande des autorités du Niger. L'Algérie renvoie les ressortissants du Niger. Ce n'est pas suffisant comme réponse.
Oui, c'est pas suffisant, mais aussi on parle de réfugiés, on parle de migrants. Y a-t-il maintenant possibilité d'avoir à peu près des chiffres un peu global par rapport aux migrants, nombre de migrants, parce que ces dernières années avec la crise en Libye, la crise au Mali, au Niger, avec l'arrivée des réfugiés syriens, donc ces dernières années on n'arrive plus à savoir combien de réfugiés, de personnes qui subsahariennes ou d'autres qui de migrants qui existent en Algérie. Donc, pour pouvoir même pour avoir essayé de faire une étude exhaustive sur ça, c'est un problème qui est très délicat comme vous venez de le signaler parce que il faut avoir une visibilité à la fois économique et sociale par rapport à ça parce que ça intègre. On entend parler de centres de regroupement, comment ces centres-là
sur la question du nombre, on ne peut faire que des estimations. Une chose est sûre, ce n'est pas 10 millions, comme certains veulent nous faire comprendre ou veulent faire peur aux Algériens. Donc ce ne sont pas 10 millions d'individus. Les autorités, le dernier chiffre qui a été donné par les autorités, je crois par le Premier ministre, il a parlé de 50 000 migrants subsahariens en situation irrégulière. Donc on parle de subsahariens et non pas des Syriens aussi, parce qu'il y a la présence des Syriens. Le chiffre qui peut être plus ou moins plausible, c'est peut-être 80 000, 70 000 à 80 000 de subsahariens en situation irrégulière en Algérie. Donc il n'y a pas de chiffre et effectivement ça pose un problème. Pour ça, je reviens au début de mon propos, s'il n'y a pas une volonté, les autorités ne veulent pas reconnaître ce fait-là. Parce qu'à partir du moment où ils reconnaissent ce fait-là, effectivement, ils vont faire un travail de statistique, de recherche, d'identification, etc. Donc, vu qu'ils ne veulent pas encore reconnaître ça, donc on reste dans des estimations.
Oui, c'est vrai, on reste toujours dans l'approximatif par rapport à la suite à l'impossibilité d'un travail de recensement et tout. Donc, aussi, il y a aussi, pour revenir avant qu'on finisse l'émission, pour revenir à cet apport de la société qui est le vrai porteur de ce plaidoyer par rapport à une politique globale par rapport à l'immigration en Algérie. Donc, vous, à Tizi Ouzou, comment peut-être il y a d'autres initiatives, peut-être il y a d'autres idées qui viennent, vu dont c'est une dynamique qui doit être créée et pour pouvoir justement porter ce plaidoyer et aussi même par rapport à la plateforme Migration Algérie pour qu'elle soit aussi qu'elle soit un peu plus portée par les acteurs vis-à-vis à une vision claire parce que pour pouvoir de donner un plaidoyer il faut une vision globale même aussi de la société. Est-ce que cette vision, la société, les acteurs associatifs ont cette vision par rapport à l'immigration? La question c'est pour tout le monde pour qu'on puisse finir.
Pour ce qui est de ma part, je m'aligne à ce que vient de dire notre ami Momen. C'est vraiment le gouvernement qui doit. Nous, comme étant que société, ce qu'on pourrait faire, c'est un travail de pression. On va faire pression sur le gouvernement, un travail de sensibilité. On va sensibiliser les gens et on va faire l'apport qu'on peut. Si on peut les aider ces réfugiés ou bien ces migrants pendant 2 heures, 3 heures à faire oublier leur peine, on va le faire. Mais on ne pourra pas les aider 24 heures sur 24. Voilà. Donc, ce que peut faire la société, à mon avis, c'est de faire pression, c'est de sensibiliser les gens et les petites aides comme ce qu'on avait fait. On a même essayé d'amener des médecins et de multiplier les actions à l'échelle nationale.
Je pense que pour ma part, le rôle de la société civile est super très important en fait. C'est vrai que on ne peut pas faire grand chose sans un cadre légal, mais pour moi, il est important que la société civile soit sensibilisée déjà sur la question de la migration, et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de la plateforme Migration Algérie, où on regroupe des associations qui viennent de thématiques différentes, c'est-à-dire que une association qui travaille sur la santé, une autre sur la défense des droits de l'homme, sur la question des enfants, sur la question des droits, et de les sensibiliser au fait que des migrants subsahariens en Algérie sont présents et qu'ils vivent des situations vulnérables et qu'ils ont besoin de leur soutien et de leur aide, mais que en même temps, on ne peut pas travailler en solitaire en fait, et qu'il est important de se regrouper et de travailler tous en commun en fait pour faire avancer les choses et pour que les choses s'améliorent, parce que chacun de son côté, on essaye de faire des petites choses, comme tu dis, apporter un peu l'aide qu'on peut, mais pour vraiment avoir de l'impact et que la situation évolue, elle change, c'est important vraiment de regrouper des initiatives comme ça et de les mettre en valeur aussi. Par exemple, ce que on fait nos amis de Tizi Ouzou, et je trouve ça très très intéressant et incroyable, et le fait qu'il s'est eu par la suite une bonne médiatisation et que ça a fait réfléchir les gens en fait. Ça a fait poser des questions sur le fait que ces enfants, certes, ils sont là dans les rues, mais qu'ils ont aussi besoin d'éducation. Ça, c'est important, et au sein de la plateforme, c'est ce qu'on essaye de faire. Vraiment rendre visibles les activités qui peuvent se faire au sein, par les membres de la plateforme, pour dire on est là, on existe et on peut faire des choses et on peut faire que les choses évoluent positivement.
Non, tout à fait. Enfin, on finit par une note positive. C'est effectivement la mobilisation de la société civile. C'est-à-dire, c'est récent comme problématique pour la société civile. Il faut toujours rappeler ça. Donc, nous sommes dans un début de processus. Il y a des choses qui se font au niveau de la société civile. Ce qui manque, c'est la liaison entre société civile et pouvoir public sur cette question-là. Donc, il n'y a pas de liaison, donc on ne peut pas aller vers des propositions de propositions et apporter notre vision des choses pour justement faire évoluer le cadre législatif, juridique, parce que fondamentalement dans quelques années la question de l'intégration va se poser pour certains nombres de migrants qui sont là depuis 10 ans 15 ans. On ne peut pas échapper à cette question. Ça va venir, toutes les sociétés ont eu à traiter cette question, autant le faire avec dans un esprit de dialogue et avec la participation de la société civile.
Oui, c'est vrai, le migrant, c'est beaucoup plus avant tout, c'est un être humain qui a des droits aussi, mais c'est un être humain aussi, c'est une personne qui est porteur d'une culture, d'un savoir millénaire qui s'est transmis de génération en génération. Donc l'immigration, elle est beaucoup plus qu'on la regarde de son côté positif, du côté positif que en fait, il n'y a pas de côté négatif. Donc elle ne peut avoir de réponse. Je pense que dans une politique globale où le dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics qui sera la seule possibilité afin de pouvoir effectivement de prendre et de répondre à ces questions, à toutes ces questions, d'avoir un cadre légal pour les acteurs associatifs pour qu'ils puissent venir en aide aux personnes nécessiteuses, mais aussi pour un minimum de respect des valeurs humaines qui est à la libre circulation, qui est le droit d'accès, parce que le droit d'accès à la santé et à l'éducation. Donc je vous remercie toutes et à tous, Moumen, Imen, Nassim. Merci à tous, merci aux éditeurs et aux auditrices de la radio Rage Voix du Jeune. Je vous remercie, à la prochaine fois dans un nouveau numéro de Café des Libertés. Merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.